Je peux penser à plusieurs situations où je me suis trouvé dans de sales draps, mais que j'aurais pu éviter si je m'étais souvenu d'une expérience pénible similaire qui m'était déjà arrivée. C'est un Américain du nom de George Santayana qui, de son état, était poète, philosophe et critique littéraire, qui a dit « Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter ». Cette affirmation se confirme souvent, autant pour une nation que pour un individu, et elle est particulièrement vraie dans le cas des enseignants de mensonges qui font l'objet des foudres de Jude. Comme ils ne tiennent aucun compte du jugement qu'ont subi les apostats qui les ont précédés, ils le subiront également. Jude comprend l'importance cruciale de connaître l'histoire. Il s'est déjà inspiré du châtiment dont ont été victimes les Hébreux sortis d'Égypte qui avaient refusé de faire confiance au Seigneur, les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang, les habitants de Sodome, de Gomorre et des villes voisines. Jude continue sur sa lancée et dresse le portrait de trois apostats tristement célèbres, Caïn, Balaam et Corée. Je continue à lire dans la lettre de Jude. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn par amour du gain. Ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Verset 11. Avec Balaam, Jude expose le motif fondamental qui sous-tend la conduite perverse des faux enseignants. Ils se conduisent envers les croyants comme si ces derniers étaient des vaches à lait ou des moutons faciles à tondre. Contrairement aux vrais bergers de Dieu, les mercenaires religieux du premier siècle étaient cupides comme Balaam, un personnage à la fois curieux et sinistre. En effet, tout porte à croire qu'au début de sa carrière, cet homme était un véritable prophète de l'Éternel. Mais l'appât du gain a eu raison de lui et il a trahi la cause de Dieu. Il est devenu renégat. Balaam est le prototype du faux prophète ou du religieux qui œuvre pour son propre bénéfice. Les Écritures le présentent comme quelqu'un de très ambigu, un vrai prophète, mais avec une mentalité de mercenaire. À un certain moment, il a retourné sa veste et a choisi d'utiliser le don que Dieu lui avait donné pour garnir son portefeuille. Il est devenu une sorte d'agent double. Il a muté en un prophète à gage parce qu'il voulait à tout prix toucher le gros lot que lui promettait Balak, le roi des Moabites. En effet, et selon ce qu'écrit Moïse, ce monarque était effrayé par l'arrivée des Hébreux aux portes du pays de Canaan parce qu'il les considérait, et à juste titre, comme une sérieuse menace pour son trône. Sachant qu'il ne pouvait les vaincre au combat, il loua les services de Balaam pour que ce dernier les maudisse, car de toute évidence, il en avait le pouvoir. Balaam a commis une série d'erreurs, la plus grave étant le désir de s'enrichir. L'appât du gain lui a fait tourner la tête au point où il a cru que l'Éternel accepterait de maudire son peuple. Peut-être pensait-il qu'à cause de leur rébellion répétée, les Hébreux avaient fini par épuiser la patience du Seigneur. Il s'est trompé et quand il a tenté de prononcer une malédiction sur Israël, il a été forcé de les bénir. Ce fut pour lui une cuisante défaite et une humiliation devant le roi Balak. Mais Balaam avait plus d'un tour dans son sac. Il a quand même réussi à obtenir son sale fric en suggérant à Balak d'utiliser les femmes plantureuses de son peuple pour aguicher les Israélites afin qu'ils s'engagent avec elles dans des relations sexuelles illicites. Ce plan machiavélique conçu par Balaam marcha comme sur des roulettes et les Israélites subirent un châtiment sévère de la part de l'Éternel. Un texte dit Israël demeurait à Shittim, et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur dieu. Israël s'accoupla avec Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Balaam est rentré chez lui avec des sous plein les poches en croyant que Dieu effacerait le nom d'Israël de dessous les cieux. Mais c'était sans compter que Dieu est miséricordieux et fidèle aux promesses qu'il avait faites à son serviteur Abraham. Si Dieu punit les coupables, il pardonne aussi les péchés à ceux qui s'humilient devant lui. Depuis cette sinistre affaire, les Écritures désignent Balaam comme le chef de file des infidèles. Il est tombé à cause de son amour pour l'argent, mais on peut se vendre pour n'importe quoi. La proéminence, les applaudissements du public, le sexe, le statut social, pour tout ce qui caresse son petit égo. Le troisième individu que Jude cite à titre d'exemple d'apostat est Corée. Cousin de Moïse, c'était un lévite dont la fonction consistait à s'occuper des aspects pratiques liés au culte de l'Éternel. Mais un jour, Corée a envié la position de Moïse et il conspira avec trois Rubénites, Dathan, Abiram et On. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 autres Israélites, des chefs de la communauté, des membres du conseil, des hommes considérés. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron et leur lancèrent. « C'en est assez, c'est la communauté tout entière qui est sainte et l'Éternel est au milieu de nous tous. De quel droit vous mettez-vous au-dessus de la communauté de l'Éternel ?» C'est par pur orgueil que Corée s'est rebellé contre l'autorité que Dieu avait donnée à Moïse, autorité qu'il avait reçue bien malgré lui. Corée a rallié d'autres personnes à sa mutinerie et a fomenté un coup d'État. Il va sans dire que l'Éternel n'a pas du tout apprécié et il a mis une fin brusque et définitive à cette révolte. Le texte dit « La terre s'ouvrit et les engloutit, eux et les leurs, ainsi que tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Ces hommes descendirent vivants dans le séjour des morts avec tous les leurs, et la terre se referma sur eux. C'est ainsi qu'ils disparurent du milieu de l'assemblée. » À la suite de ce châtiment, et assez curieusement, d'autres Israélites se sont mis à murmurer contre Moïse et Aaron. La conséquence n'a pas tardé, car Dieu a frappé le peuple d'une plaie qui a tué 14 700 Israélites de plus. Cet incident montre combien l'influence de Corée était grande parmi le peuple. Un texte du Nouveau Testament dit « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Aujourd'hui, beaucoup d'apostats font un grand nombre de disciples. Cependant, à l'instar de Corée, ils subiront tous la colère de Dieu. Je continue la lettre de Jude. « Leur présence sont des écueils dans vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. » Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont deux fois morts, déracinés. Verset 12. Dans plusieurs de ses paraboles, Jésus a utilisé les phénomènes naturels pour illustrer des vérités spirituelles. Jude, pour sa part, compare les apostats à cinq calamités. Des écueils, des nuages sans eau, des arbres d'automne sans fruits, et au verset suivant, des vagues furieuses et des astres errants. Un écueil est un rocher ou un banc de sable qui se trouve à fleur de l'eau. Il est très dangereux pour la navigation parce qu'on l'aperçoit trop tard. juste avant que le navire ne s'échoue ou ne se brise contre lui. Comme les écueils, les apostats se dissimulaient dans les agapes de l'église fraternelle. Ainsi, comme les écueils, les apostats se dissimulaient dans les agapes de l'église primitive. Ces festivités étaient l'occasion pour les croyants de partager ensemble la communion fraternelle ainsi qu'un repas à la fortune du pot. Les hérétiques, qui de toute évidence occupaient une position d'autorité dans l'assemblée, profitaient de ces repas conviviaux, déjà pour se remplir la panse, mais surtout comme plateforme pour étendre leur influence néfaste et amorcer par leurs mensonges les âmes mal affermies dans la vérité. En second lieu, Jude compare les apostats à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent. Dans les pays arides comme la Palestine, la pluie ainsi que les nuages qui l'amènent sont une bénédiction. Par contre, les nuages moutonnés, floconneux, filamenteux ou en voile blanchâtre qui ne font rien d'autre que passer sont de fausses promesses. Ils ne donnent jamais d'eau. Le roi Salomon a dit « Celui qui se vante de sa libéralité sans rien donner fait penser aux nuages amenés par le vent et qui n'apportent pas la pluie ». De nos jours, il existe beaucoup d'ecclésiastiques qui portent de grandes soutanes et qui parlent avec grandiloquence. Entre les habits multicolores et la pompe qui les accompagne, ils impressionnent la galerie. Mais ce sont des ballons de baudruche vides et ratatinés. Tous les apostats religieux sont ainsi. Ils n'ont rien à dire, aucune parole venant de Dieu à partager. L'idée des nuages que le vent emporte fait penser à une girouette. Ces renégats sont évidemment très peu enclins à parler des Écritures qu'ils ne connaissent pas. Alors leur sujet de conversation et de prédication porte principalement sur les derniers événements colportés de bouche à oreille. Il ne s'agit pas de la dernière robe de gala de l'impératrice qui ne passionne que les courtisanes du palais impérial. Par contre, la politique et les philosophies en vogue auraient eu beaucoup de succès auprès des lecteurs du quotidien Nouvelle de Rome si ce journal avait existé. On peut donc parier que ces sujets faisaient les choux gras des renégats. Le mot grec traduit par « qui ne donne pas de pluie » apparaît deux fois dans les évangiles où il est traduit par « lieux arides, désertiques ». Jésus utilise ce mot pour expliquer la situation d'un démon après qu'il ait été chassé de la personne qui l'avait soumise à sa volonté. La description des enseignants de mensonges par Jude correspond donc à celle du lieu de perdition des mauvais esprits par Jésus. Ce lien n'est pas fortuit, mais rappelle que les apostats ont une origine démoniaque. En troisième lieu, Jude compare les hérétiques à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Et pour faire bon poids, bonne mesure, il ajoute qu'ils sont deux fois morts, déracinés. L'automne est la saison où se font les grandes récoltes de fruits et de légumes qu'on engrange pour l'hiver. Dans une société qui dépend de l'agriculture pour survivre, comme c'était le cas en Palestine, s'il n'y a rien ou peu à ramasser, c'est la catastrophe. Car il y aura risque de famine avec un effet boule de neige, affaiblissement des habitants, maladie, décès précoce, incapacité de se défendre contre un conquérant et même disparition de toute une population. Il semble d'ailleurs que plusieurs civilisations d'Amérique du Sud, pourtant puissantes comme les Mayas ou les Incas, aient disparu suite à plusieurs années de mauvaises récoltes. Jude compare la profession de foi creuse et l'absence de réalité spirituelle chez les apostats à une récolte inexistante. Jésus a dit « Gardez-vous des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Oui, mais s'il n'y en a aucun. Dans un évangile, on lit « Voyant un figuier sur le chemin, Jésus s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi !» Et à l'instant, le figuier sécha. En parlant des pharisiens qui étaient des religieux apostats, Jésus a aussi dit « Toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. » Je continue la lettre de Jude. Il ressemble aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. Verset 13. Jude ne lève pas le pied, car il est toujours aussi virulent à l'égard des enseignants de mensonges. En grec, le mot pour honte est au pluriel, ce qui signifie que les apostats se rendaient coupables de plusieurs conduites honteuses. L'apôtre Paul écrit « Il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. » Les Écritures emploient souvent l'image de la mer en furie pour représenter ceux qui n'ont pas une foi personnelle en Dieu, pour représenter les mécréants. Par exemple, le prophète Ésaïe écrit « Les méchants ressemblent à la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les flots agitent la vase et le limon. » Après une tempête, la côte est jonchée de débris et de fange, de la saleté en somme. Quant à l'écume, elle porte aussi des impuretés que soulèvent les vagues. Non seulement elle ne sert à rien, mais c'est de la pollution nuisible à l'environnement. Ici, ces déchets représentent le comportement corrompu des apostats. Par leurs paroles creuses et leur conduite dépravée, ils sont semblables aux vagues furieuses de la mer qui ne produisent que des impuretés, l'imposture, l'immoralité et l'arrogance. Ensuite, dit Jude, les enseignants de mensonges sont comparables à des astres errants, une image qui fait aussi penser aux chiens errants. Ces astres ne sont pas des corps célestes qui brillent à partir d'une orbite fixe, mais des météorites ou étoiles filantes en perdition qui traversent le ciel sans suivre de trajectoire précise, puis disparaissent à tout jamais dans l'obscurité des ténèbres de l'espace sidéral. Pareillement, la plupart des hérétiques ne durent guère. Ils apparaissent sur la scène religieuse pendant un temps, promettent la lune, puis s'éteignent aussi vite qu'un feu de paille. L'apôtre Pierre écrit que Dieu leur a réservé une place dans les ténèbres les plus profondes, où ils iront rejoindre les anges qui ont péché, qui ont été précipités dans l'abîme, où ils sont gardés pour le jugement enchaînés dans les ténèbres. Dans les Écritures, il existe plusieurs symboles pour le jugement final. Les deux principaux sont le feu et les ténèbres, mais ces images représentent des réalités non matérielles. Se brûler fait très mal, mais il y a bien pire comme souffrance. Pensez à une jeune mère qui voit son enfant de 4 ans écrasé par une voiture là, devant elle. Sa détresse est inexprimable. Celui qui entre dans l'éternité sans le Sauveur se retrouve seul avec lui-même et le poids de toutes ses fautes qui pèsent sur lui. Il est constamment rongé de remords et tourmenté par sa culpabilité. C'est le ver rongeur qui ne meurt point dont Jésus a parlé. Bien qu'il soit dans les ténèbres les plus épaisses, il voit défiler interminablement dans son esprit tous les péchés qu'il a commis contre Dieu. L'angoisse ne le quitte jamais. L'horreur. Par contre, l'enfant de Dieu qui meurt entre dans un palais de lumière, le royaume de Dieu, parce que tous ses péchés lui ont été pardonnés, quand il s'est humilié devant le Seigneur Jésus. Cela ne veut pas dire que tout est en ordre, car il va devoir comparaître devant un tribunal où sa vie de disciple sera passée au peigne fin. Cependant, dans le pire des cas, il ne recevra aucune récompense, demeurera dans un logement exigu et n'aura aucun privilège particulier. mais il sera quand même dans le royaume des cieux. Les descriptions très parlantes de Jude, les comparaisons avec les renégats du passé, les analogies avec des phénomènes naturels, servent à brosser un portrait pris sur le vif des apostats du premier siècle. Ils tordent le sens des Écritures et déforment la vérité concernant la personne du Christ. Les apostats constituent la pire espèce de mauvaise graine qui soit. Ce sont des imposteurs, des hypocrites, des pécheurs effrontés et débauchés, des hédonistes ignobles, des faux bergers et des loups. Par contraste, les vrais bergers ont une compréhension juste de l'enseignement des Écritures et connaissent le Seigneur personnellement. Ils ont une attitude empreinte d'humilité et de soumission envers lui, et ils prennent au sérieux la déclaration de Jésus qui a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Par contre, les enseignants de mensonges ont préféré la voie de Caïn, c'est-à-dire leur propre tambouille religieuse, à la voie du Christ, le seul chemin, la vérité et la vie. Ils ont choisi l'appât du gain de Balaam, à l'amour de Dieu, ils se sont joints à la rébellion de Corée plutôt que de se soumettre au Christ. Malheur à eux et à tous ceux qui s'engagent dans les mêmes actes d'insubordination contre le Seigneur du ciel et de la terre.